Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Des forces de rire et des forces de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, ceux qui nous ont suivis la saison dernière eh bien, reconnaissent ce générique qui va changer dans quelques semaines. C'est Cinérama qui débute. Bonjour à Marine.
Bonjour Vincent, bonjour Manu, bonjour à tous.
Et bonjour Manu.
Bonjour.
Cinérama, saison 2013-2014, on va développer le sommaire très rapidement. Alors, on aura surtout eh bien, une interview quand même assez intéressante, hein, puisque c'est celui qui a écrit Alabama Monroe, le film de Felix von Groningen, Johan Heldenberg, qui est aussi acteur, qu'on écoutera largement dans cette émission. Et puis, toi Marine, tu nous parleras de quoi ?
Moi, je vais vous parler de Grand Central de Rebecca Zlotowski.
Et puis toi Manu ?
Ben, je vais parler de deux films, donc l'un film anglais, Le Dernier Pub avant la fin du monde, et puis le deuxième Kick-Ass 2, qui est sorti déjà il y a 15 jours, mais qui est toujours à l'affiche.
Voilà, mais t'en as pas pensé grand bien, donc on le gardera pour la fin d'émission.
Cinérama sur Divergence FM.
Donc Jeune et Jolie, film de François Ozon qui est sorti il y a déjà 15 jours, on l'a vu tous les trois, on écoute la bande-annonce, c'est ça ?
Ce que j'aimais, c'était prendre rendez-vous. Discuter sur Internet, parler au téléphone, écouter les voix, imaginer des choses. Et puis y aller, découvrir l'hôtel, pas savoir sur qui j'allais tomber. C'était comme un jeu. Sur le moment, je ressentais presque rien. Mais quand j'y repensais, après, à la maison ou au lycée, j'avais envie de recommencer.
Bon, alors, comment vous avez fait pour recommencer ?
Ma mère m'a suivi en sortant du lycée. Elle m'a proposé de l'argent.
Dis donc, c'est pas toi qui as pris mon chemisier en soie gris ?
Non, c'est sûr ? Mais oui, fais pas chier, je te dis pas.
Vous êtes ravissante. Vous avez quel âge ?
J'écrivais à ton mec ?
Comme tu sais.
Tu racontes rien à maman.
On peut se revoir. C'est très jeune, tu sais.
Oui, je sais. On me dit souvent.
Votre fille mène une double vie, madame. Elle se prostitue.
Je comprends pas.
Maman, on était proches, tu me parlais, tu me disais tout.
Moi aussi, j'ai eu ton âge, moi aussi, j'ai fait les bêtises.
Moi aussi, t'as fait la pute.
Vous avez l'intention de continuer ?
Je sais pas.
Et vous avez quel âge, vraiment ?
17 ans.
17 ans. Bel âge.
Bel âge, mais on n'est pas sérieux aussi. Hein. Quand on a 17 ans, c'est un peu ce qui est dit dans le film, hein, à travers le poème de Rimbaud. Donc c'est un passage de l'adolescence hein, qu'on vit avec ce film. Alors effectivement, elle se prostitue et c'est pour ça qu'on en a longuement parlé, en tout cas dans les médias. Voilà, bah, comment vous avez perçu, vous, le film de François Ozon ?
Je fais le mauvais esprit, c'est
oui.
Ça ?
Vas-y.
Voilà, bah, justement, en parlant du poème de Rimbaud, je trouve que c'est à peu près, pour moi, le seul argument du film. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Le film, pour moi, débute un peu comme un film de plage. Ça m'a rappelé un peu, je sais pas, un film comme L'Hôtel à la plage. Je sais pas si vous connaissez ce film.
Non.
Voilà, on voit une jeune fille se faire dépuceler et puis on la retrouve après en automne. Cette jeune fille va décider de se prostituer avec des personnes plus âgées. Et je sais pas, je trouve cette partie-là est intéressante parce que Ozon juge rien, il explique absolument rien, il reste assez dans une démarche un peu. Il est un peu voyeur, mais avec une distanciation quand même, qui fait que c'est vraiment intéressant. Mais pour moi, dès que la brigade des mineurs intervient, le film retombe pour moi dans les pires travers du cinéma français, un peu psychologique, explicatif. Et, Et là, moi, j'accroche plus du tout.
Même oui, si non. Tu dis que c'est psychologisant, mine de rien, après, on ne sait pas. Alors, il y a la rencontre avec le psy, mais le psy ne dit rien de plus. Oui,
à la limite, la toute dernière scène qui peut-être avance un argument sans en être vraiment un, à savoir que ça serait un fantasme commun à toutes les femmes. Et encore, hein, c'est juste émis comme une possibilité. C'est pas vraiment avancé comme un vrai argument. Mmh. Non, mais moi, en fait, je pense que c'est vraiment normal qu'il soit comme ça, parce que, en fait, Ozon épouse le point de vue de la jeune fille. Étant donné qu'elle-même ne sait pas en fait pourquoi elle fait ça, et ben en fait il se place de son point de vue à elle, ce qui est, je pense, assez judicieux. Voilà, puisqu'en effet, quand on a 17 ans et qu'on fait des choses comme ça, on n'arrive pas à avoir un recul nécessaire sur soi-même pour pouvoir s'analyser. Donc il ne l'analyse pas. Et c'est pas plus mal, je pense.
Alors il y a aussi une première partie où on la suit, elle, effectivement. Alors on va avec elle au rendez-vous, on voit bien les personnes qui sont visées hein, par ce type de rencontre. Donc là, il y a un aspect quand même documentaire. Hein. Ce sont des personnes relativement âgées. Et après, la deuxième partie, quand la brigade des mineurs effectivement intervient, là, c'est plus les relations qu'elle peut avoir avec sa mère, enfin, les relations à l'intérieur de la cellule familiale. Alors, c'est un scénario original quand même, et on remarque aussi le personnage, moi, c'est celui qui m'a intrigué quand même, c'est le personnage du jeune garçon, c'est son jeune frère, qui doit avoir 13-14 ans, qui a un esprit complètement ouvert et qui, lui non plus, n'est pas là pour juger sa grande sœur. Au contraire, il aimerait bien l'accompagner dans tout ce qu'elle fait.
C'est un voyeur, un peu.
Oui.
Mais au sens, pas forcément, il n'y a pas de critique de la part d'Ozon sur ce personnage, mais c'est le vrai voyeur et c'est un peu le personnage un peu spectateur du film. C'est un peu le spectateur, ce jeune frère, qui regarde un peu ce qu'elle fait sans juger. Et pour reprendre la première partie, d'ailleurs, ressemble un petit peu à une version juvénile du film de Buñuel, Belle de jour, où c'était plus une bourgeoise d'une trentaine d'années, mais c'était les motivations ne semblent pas si différentes, finalement. Et j'ai l'impression que, passé ça, il n'y a plus grand-chose à raconter pour moi, Ozon.
Après, c'est baigné de mélancolie. Hein. C'est une fille qui est très mélancolique. Hein, voilà.
Ouais, elle fait un peu trop la gueule. Ouais. Dommage parce qu'elle est plutôt pas moche, mais elle fait vraiment trop la gueule, quoi.
C'est une sorte de Laetitia Casta en très très
oui,
jeune
un
et plus
petit
fine.
Côté, oui.
Ah oui, mais clairement. Hein. Enfin,
moi, hormis ça, je pense que c'est vraiment le premier film de Ozon où tous les personnages sont aussi bien écrits, quoi, de façon égale. C'est vrai qu'il n'y a pas juste un personnage central qui est vraiment intéressant. Ils sont tous extrêmement intéressants et très bien interprétés aussi.
On continue cette fois-ci avec un film qui vient au mélodrame.
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Alabama Monroe est le troisième film de Félix von Groningen à qui l'on doit La merditude des choses, qui a fait un peu plus de 100 000 entrées en France. Et Alabama Monroe, des mots de Johan Eldenberg, l'acteur et l'auteur à la source de l'histoire de Alabama Monroe, nous a dit que le film avait cartonné en Belgique flamande, se mesurant au dernier James Bond en termes d'entrée. The Broken Circle Breakdown, ça c'est le titre original, donc raconte l'histoire d'amour entre Élise et Didier. Élise possède son propre salon de tatouage, lui vit dans une caravane en attendant de retaper une ferme et joue du banjo dans un petit groupe de bluegrass. Et lorsqu'ils se rencontrent, une histoire d'amour naît, une histoire comme il y en a plein. Quand naît leur fille Maybelle, leur bonheur est donc complet, mais à 6 ans, Maybelle tombe gravement malade. S'en sortira-t-elle et le couple survivra-t-il à cette épreuve ? Avec Alabama Monroe, on est en plein mélodrame, mais bercé par la musique country, mais aussi par une mise en scène qui multiplie les séquences et les flashbacks et qui nous place tout près des personnages. Alors on dit toujours qu'il est plus facile de jouer un drame qu'une comédie, et là les acteurs sont parfaits, vraisemblables autant que touchants quand il s'agit d'interpréter une scène dramatique, mais sans que les sentiments dégoulinent. La musique est un personnage à part, une musique qui donne du sens à leur histoire, qui entoure les séquences clés, et une musique qui permet aussi de souffler un peu quand l'intensité est trop mélodramatique. Alabama Monroe est un film sur l'amour, sur la famille, et puis aussi, parlons-en, du sens. On écoute Johan Eldenberg, donc l'auteur de la pièce de théâtre initiale qui a été un grand succès en Belgique et qui est aussi l'acteur principal de Alabama Monroe, le film cette fois-ci. On entendra aussi le distributeur français que tu as confondu avec le réalisateur Marie.
Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by?
J'avais l'idée d'écrire quelque chose sur la religion. Je voulais. Et alors, pour avoir une opposition, je me suis dit, je veux le faire avec de la musique bluegrass. C'est très intéressant quand quelqu'un est très fâché contre la religion, qu'il chante des chansons religieuses, en fait. Et j'ai commencé à entendre la musique bluegrass et entendre des chansons. Et j'ai pris 12 chansons pour la pièce théâtre If I Needed You, la chanson If I Needed You, c'était le cœur du pièce de théâtre et le cœur du film pour moi, parce que ça veut dire si j'avais besoin de toi, tu serais là. Si tu as besoin de moi, moi je serai là. Mais quand même, c'est pas possible d'être là toujours pour quelqu'un d'autre.
If I needed you, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain? And if you needed me, I would come to you. I would swim the seas for to ease.
Tout le film repose vraiment sur le couple. Comment on fait concrètement en fait, pour créer une complicité avec sa partenaire de jeu en très peu de temps comme ça, pour rendre ça crédible?
On prend beaucoup de temps, parce qu'on a commencé avec les répétitions pour la musique en janvier, et on a tourné en juillet, et entre janvier et juillet, on a beaucoup répété pour la musique, mais aussi les scènes, aussi justement aller manger quelque chose ensemble, être ensemble. Et aussi avec Mabel, la petite fille, on a été beaucoup ensemble. Les mercredis après-midi, quand pas d'école, Mabel qui a été chez Virle pour le week-end. On a fait beaucoup d'efforts de devenir une famille. Avant de tourner et pendant le tournage, nous étions une famille.
Kong, c'est Kong, Kong. Misschien wil ik niet beslissen over het leven van iemand anders.
Jij stikt op mij.
Fuck you.
Revenir sur l'aspect cinématographique, hein, comme c'est adapté d'une pièce, vous l'avez dit, elle est très bavarde cette pièce. Donc là, on a des éléments musicaux. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de montage dans le film. Et puis il y a surtout ces flashbacks qui permettent d'alléger un peu, parce que c'est un mélodrame, c'est quand même assez, assez triste, ça se termine mal, très mal. Et malgré tout, cette espèce de flashback qui on avance et puis on recule, permet d'alléger un peu les choses, mine de rien. Oui. J'imagine que ça aussi, c'est une grosse différence par rapport à la pièce.
Non, la structure de la pièce était presque la même chose. Parce que on a commencé avec un monologue d'Élise qui dit « Je me suis suicidé ». Parce que ce que tu vois dans la pièce, c'est la coma, la rêve comateuse d'Élise. Mais Félix a fait une autre structure, ce n'était pas le même d'une pièce de théâtre. Mais je pense Mabel que meurt à 40 minutes dans la pièce, et dans le film aussi. Il y a des coïncidences, il a tout essayé. Mais ce qui est la vraie raison, et c'est pour donner à chaque scène une importance. Par exemple, la scène quand Didier et Élise se rencontrent dans le shop tattoo, quand tu le vois au début du film, c'est deux personnes qui se rencontrent, qui bavardent, mais quand tu le vois à une heure et tu sais tout, ça donne quelque chose, ça devient important ce qu'il dit. Et c'est pour ça qu'ils ont cherché la structure, que chaque scène devrait avoir une importance, parfois une légèreté, parfois quelque chose rigoleux, pas toujours triste. Et je suis pas d'accord tout à fait que le fin est très triste, parce que j'ai mes nuances sur ça. Mais chaque scène devrait être importante. Et voilà, c'était fait instinctivement dans une chronologie émotionnelle, que je dis. C'est pas une chronologie de temps, c'est une chronologie d'importance et émotionnelle.
You rue the day that you were born. Forgive me the devil, cause I wouldn't hold court.
les acteurs, c'est formidable. Enfin, le montage, la réalisation, excellent. C'est comme ça que vous l'avez vu, ce que vous racontez. C'est pour ça que vous avez choisi de le distribuer. Comment ça se passe quand on est distributeur et qu'on voit un film?
Moi, de toute façon, quand je suis sur un marché, en l'occurrence c'était Berlin, je vois le film comme un spectateur d'abord, avec le plaisir que je peux ressentir dans une histoire à la fois toute simple et forcément complexe, parce qu'il y a beaucoup de complexité dans ce film, et j'ai été, comme n'importe quel spectateur, mais transporté dès le début du film. Je disais à Johan, j'ai compris très vite qu'on était dans un très grand film, et ça fait longtemps que j'attendais un film comme celui-là pour pouvoir le distribuer. Voilà. C'était aussi simple que ça. Et je ne connaissais rien du film, hein. Je ne savais même pas que le film était sorti en Belgique, il avait eu le succès que j'ai dit. Et voilà, quoi. On a envie simplement, on ressent quelque chose, on a une émotion, on voit une virtuosité, on aime les comédiens, on aime les personnages, on aime l'histoire, on aime le style, on aime la musique, parce que bien sûr, il faut parler de la musique, forcément, qui apaise tous ces moments un petit peu durs du film. Et puis voilà, on a envie d'être le distributeur, on a envie de le montrer à beaucoup de gens, et on pense que beaucoup de gens vont l'aimer. Et comme par hasard, le film à Berlin a le prix du public, et c'est vrai qu'il y avait une salle, j'étais à côté de quelqu'un, j'avais déjà pris le film, mais quelqu'un m'a dit, mais c'est incroyable, c'est vraiment, c'était une immense salle en plus, et les gens étaient vraiment transportés par le film. Quoi.
Ouais, c'est vrai. And the night falls, and the morning's born. Shines with the light of love, and you will miss sunrise if you close your eyes, and that would break my heart in two. If I needed you, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain?
De toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
La fine équipe de Shaun of the Dead et Hot Fuzz donc, remet le couvert pour une troisième collaboration explosive après des escapades séparées plus ou moins heureuses. Donc on a retrouvé les deux hurluberlus, hein, Simon Pegg et Nick Frost, les deux acteurs principaux, dans le décevant Paul, tandis que le réalisateur Edgar Wright faisait joujou avec son amusant Scott Pilgrim, archétype même du film de geek. Voilà, le dernier pub avant la fin du monde tente de retrouver la veine délirante et chaleureuse de Shaun of the Dead. Au point de ressembler parfois à un copier-coller, les extraterrestres remplaçant les valeureux zombies. Mais ne faisons pas la fine bouche, hein, ce pastiche de SF paranoïaque se laisse voir vraiment avec un plaisir communicatif.
Et voilà, comme les 5 mousquetaires.
Les 3 mousquetaires, non?
On sait pas combien ils étaient en vrai.
Tu sais que les 3 mousquetaires est une fiction en fait, écrite par Alexandre Dumas.
Il y en a même qui dit ça de la Bible aujourd'hui.
Qu'elle a été écrite par Alexandre Dumas?
Sois pas con Steven, la Bible c'est de Jésus.
On se décide.
C'est parti!
Ils ne se sont pas vus depuis 20 ans.
I'm free to do what I want.
Mais ce soir, ils reviennent dans leur fief pour finir la grande tournée des pubs.
C'est l'occasion d'achever le marathon de la foi maltée. 12 pubs, 12 pintes.
Et cette fois, ils tiendront la route jusqu'à l'étape ultime, la fin du monde.
Amenez-vous!
Venez.
Vous nous recommandez?
De la bière.
Servez-en 5, merci.
4 et un verre d'eau, je vous prie.
Quoi?
Waouh, ça fait un bail. Gary.
Welcome, bienvenue, welcome.
C'est bizarre, non? Rien n'a changé, mais tout a l'air différent.
Je vous suggère de passer votre chemin. À votre retour, messieurs.
C'est pas nous qui avons changé, c'est la ville!
Tu fais quoi, là?
T'inquiète, je vais pas essayer de te sauter. Il y a un truc qu'il faut que je te dise tout de suite. Sauf si tu veux qu'on s'envoie en l'air, dans ce cas, je te le dis après.
Dis-le-moi tout de suite.
Il t'a dit quoi, Sam?
Newton Haven serait envahi par des robots.
Et tu l'as cru?
On devrait rentrer à Londres.
Ah, on est bourrés.
coupées, on a les mains pleines de sang.
C'est plus comme de l'encre.
On a les mains pleines d'encre.
Par les créateurs de Shaun of the Dead et de Hot Fuzz.
Les gouttières, on descend par là.
J'ai une meilleure idée.
Les gouttières, descend par là.
Le seul moyen de survivre à la nuit est de tenir jusqu'au dernier pub.
Où sont les autres?
Ils se fondent dans le paysage.
Salut, je suis un robot.
Donc le film commence comme une petite comédie anglaise inoffensive. Carrie King, quadragénaire attardé, convainc ses quatre meilleurs potes du lycée de transformer l'essai raté de leur jeunesse, c'est-à-dire de faire la tournée de 12 pubs dans leur ville natale et finir en beauté dans celui nommé La fin du monde. À partir de cette trame légère, Edgar Wright commence par une comédie douce-amère sur le poids du temps, les illusions perdues. Bon, le refrain nostalgique sur le bon vieux temps laisse un arrière-goût déjà vu. Rien de transcendant. Heureusement, au bout d'une demi-heure, les intentions du réalisateur se révèlent après quelques pintes avalées par les joyeux Lascars. Le dernier pub n'est ni plus ni moins qu'un détournement délirant de l'invasion des profanateurs de sépultures. Edgar Wright respecte à la lettre donc tous les codes inhérents du genre, à commencer par la parabole, on va dire gentiment subversive, sur la déshumanisation de l'individu pris dans l'engrenage d'un système généré par une pensée unique. Il y a d'ailleurs une idée marrante dans le film que certains, ont taxé d'un peu réactionnaire, mais qui se révèle plutôt bouffonne à l'écran. Le consumérisme excessif et l'avancée technologique de ces 25 dernières années sont issus du conditionnement des extraterrestres largement en avance sur nous, pauvres terriens idiots. Cette impression pour les gens normaux d'être parfois à la ramasse dans une société marchande où tout va toujours trop vite n'est finalement pas infondée. Il y a un petit côté comme ça, un peu babacool ou populiste, ça dépend comment on voit les choses, qui est assez convenu, mais je trouve qu'il est assez pertinent dans le film, enfin, qui est assez rigolo, voilà. Voilà, sinon le film enchaîne des gags à un rythme d'enfer, les références fusent, et certains seconds rôles, à commencer par Pierce Brosnan, que je n'avais pas vu aussi drôle depuis Mars Attacks, ben, sont particulièrement savoureux. Bon, pour ma part, je regrette vraiment le manque d'audace d'un film qui reprend presque à l'identique la structure et même certains gags de Shaun of the Dead. Le rouge qui tache des scènes gore du film de zombies se substitue ici à du sang bleu issu d'envahisseurs apparentés en fait à des robots. Donc une paresse anime un peu le cinéma de Wright, mais une paresse assez jouissive qui nous prend gentiment par la main pour nous inviter à partager une ivresse cinématographique en compagnie d'ivrognes transformés d'un coup en sauveurs de l'humanité le temps d'une nuit. Mais bon, l'important de tout ça est bien s'envoyer le plus de bière possible dans un maximum de pubs en dépit du danger qui rôde. Et de terminer la mission à la fin du monde dans un final toutefois assez délirant, voilà. Pas un film transcendant, d'ailleurs un épilogue que je trouve limite mièvre, qui a une tendance à plomber un peu le film. C'est un petit peu dommage sur la fin, parce que je trouve le film bon, un parfait divertissement, très anglais et bien foutu quand même.
Oui, c'est vraiment drôle, parce que si on ne sait pas ce qu'on va voir, finalement on est assez étonné, on s'aperçoit que c'est... Au début, c'est assez classique, et puis
on ne sait pas ce qu'on va voir, mais quand on a vu Shaun of the Dead, on s'y attend quand même énormément. Eh oui. En fait, c'est un peu le problème du film. Donc, tous ceux qui n'ont pas vu Shaun of the Dead, allez-y. Les autres aussi, hein, parce qu'on se retrouve en terrain inconnu, et c'est plutôt agréable.
Ça passe au Gaumont Multiplex.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
L'amour est-il semblable à la radioactivité en matière de contamination et de dangerosité? C'est en quelque sorte la jolie allégorie déployée dans le nouveau film de Rebecca Zlotowski, réalisatrice du déjà remarqué Belle Épine. Cette romance aux accents de thriller et de drame social prend place dans une ville anonyme au quotidien articulé autour d'une centrale où débarque Gary, interprété par Tahar Rahim, un jeune homme sans passé qui recherche juste un job. Il rencontre ainsi les ouvriers de la centrale qui ne tardent pas à l'adopter et commence à travailler avec eux, apprenant jour après jour les dangers du métier de décontamineur.
Prénom ?
Manda, Gary.
Gary. Date de naissance, Gary ?
6 mars 84.
Bien, vous parlez un peu l'anglais ?
Non.
Ça ira. Tu signes ici et tu pars.
Et on commence quand ?
C'est un combat contre la dose. Incolore, inodore, invisible, elle est partout autour de toi. Tu respires mal. Ton cœur s'emballe à 100 à l'heure.
Tu peux expliquer ça au gamin? Ça fait quoi la dose?
La peur, la vue brouillée, la tête qui tourne, les jambes qui tremblent. Ben, c'est ça la dose.
Et ça, c'est une petite dose.
Ça arrive souvent, ça?
Ça arrive? Pas souvent.
veut dire quoi, pas souvent?
Je vois que ça aurait chier, hein. Ça aurait chier que j'ai l'étonné l'après, hein.
Tu me connais pas. Je te jure. Ici, on compte tous l'un sur l'autre. Si tu commences à la jouer perso, ça va pas le faire, mon gars. Tu comprends, là, ce que je te dis?
C'est moche, ce qui arrive à ton équipe.
De quoi tu parles? Tu m'as demandé de trouver des gamins, hein. Et moi, je vais faire avec ce qu'il y avait.
Ça fait beaucoup.
C'est simple, là. Pour nous, t'es en sursis. Si on relève encore trop de tout sur ton dosimètre, on t'arrête pour la saison.
Ok. Moi, ce que je veux, c'est rester ici.
Le travail au sein de cette centrale, filmée comme une matrice irréelle, est mis en scène avec une documentation que l'on devine assidue. Dans ce microcosme régi par ses propres lois, hommes et femmes ont lié leur vie à celle de la centrale, formant un vaste groupe qui, le soir, se retrouve dans les bars. Gary ne tarde pas ainsi à rencontrer Carole, pin-up locale, promise à un ouvrier qui travaille avec lui. Irrépressiblement attirés l'un par l'autre, ils tombent dans une spirale adultère dont les enjeux et les risques se mêlent étroitement à ceux de leur travail. Les rapports métaphoriques entre sentiments et radiation nucléaire abondent, revêtant au rythme du film bien des formes et des complexités qui en font une des œuvres les mieux écrites de cette rentrée. Présentée au Festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard, Grand Central peut se vanter d'allier un sujet jamais abordé dans le cinéma français, à savoir la vie dans une centrale nucléaire. Je pense, il me semble que ça n'a jamais été utilisé comme toile de fond, à une histoire d'amour mise en scène sans lourdeur ni naïveté. Alors, si la référence à Hiroshima, mon amour, demeure la plus facile à faire, le film reste malgré tout difficile à classer et se forge sa propre identité avec une grande réussite. Rien de la photographie, l'écriture, la musique ou du casting ne pourrait paraître un peu moins bon que l'ensemble. On regrettera juste, s'il fallait vraiment trouver un léger bémol, que les comédiens soient à nouveau cantonnés au rôle qu'ils interprètent depuis longtemps, c'est-à-dire Tahar Rahim en Prolo, Léa Seydoux en Femme Fatale, Olivier Gourmet en Grande Gueule, bien que leur interprétation demeure quand même irréprochable. À voir absolument, c'est clairement l'un des meilleurs films de cette rentrée de cinéma. Un film que l'on pourrait résumer en disant qu'il s'agit de l'histoire d'un mec qui travaille dans une centrale nucléaire et qui tombe amoureux d'une bombe atomique. Désolé, ouais, fallait que je la fasse celle-là. Et oui, il faut quand même ajouter d'ailleurs que c'est le premier film français, je pense, où on voit quelqu'un fumer une cigarette électronique. Ah. Oui, ça m'a frappé. Et on voit quelqu'un qui vapote dedans. Et c'est quand même assez rare pour être souligné.
C'est voilà. Décidément le film de cette rentrée.
Je vous propose vraiment d'aller le voir. Ne le ratez pas.
Pour la métaphore entre l'histoire d'amour.
La bombe
d'amour
atomique,
et
la centrale nucléaire.
Intéressant.
Cinérama.
Ça ne me gêne pas si je prends quelques petites notes.
On termine avec l'agenda, parce qu'il y a beaucoup de choses. Notamment, demain, jeudi 5 septembre à 18h30, il y a le vernissage de la publication Les 30 ans du Diago, car cette histoire d'anniversaire n'en finit pas. Hein. Il y avait déjà eu l'anniversaire au mois de juin, et oui. Et donc, il y aura en diagonale de Lara Saadi et Priscilla Sor. Ce sera à 18h30, donc la projection de ce film de 30 minutes, un film qui est une balade dans la ville à travers les lieux du cinéma montpelliérain. Vestige de son histoire, voilà, c'est comme ça qu'ils le disent. C'est une séance suivie d'un peu de vin, je crois. Entrée libre et gratuite, mais dans la limite des places disponibles, effectivement. Le lendemain, ce sera au Gaumont Multiplex. Il y aura Ejalajokul, voilà.
Sinon, on peut dire le volcan.
Avec Valérie Bonneton et Danny Boone. Et il se trouve que Valérie Bonneton et Alexandre Coffre, le réalisateur, seront là. Samedi 7 septembre, ce sera Gazland, la partie 2, film de Josh Fox. Il sera aussi présent, le réalisateur, avec le collectif Grand Montpellier contre le gaz de schiste. Ça, ce sera au Diagonal. Puis lundi 9, vous retournerez peut-être au Gaumont Multiplex pour l'avant-première publique de 9 mois ferme. C'est la dernière comédie d'Albert Dupontel avec Sandrine Kiberlin. Et il y aura seulement Albert Dupontel. Et on termine avec le mardi 10 septembre au Diagonal à 17h40, la légende de Caspar Hauser de Davide Manu. Nulli, c'est avec Vincent Gallo, acteur maudit, mais qui continue donc à tourner. Voilà, une séance unique à 17h40 ce mardi 10 septembre.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Ainsi s'achève cette première émission de la saison Cinérama. On se retrouve la semaine prochaine. On remercie Bruno à la technique.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros.
Rien que des combines. Y a pas de gagneur, rien que des combines et de la merde. Y a pas de saint, y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM.